Bonjour à tous, merci d'avoir bravé la pluie pour venir nous retrouver sous le Magic Mirror. Remarquez, ça va, on est au sec ici et au chaud. Et nous allons vous faire entrer un peu dans l'envers du décor dans ce café littéraire, puisqu'on va s'intéresser non pas forcément aux livres des auteurs présents eux-mêmes, même si évidemment ça sera quand même présent dans tout ce que nous allons dire, mais sur la façon dont ils travaillent, dont ils écrivent, dans quel contexte, dans quelles conditions. Et je pense qu'on va voir des méthodes quand même assez différentes et assez variées, ou au contraire, peut-être que ça se rejoindra. Mais en tout cas, on va essayer de se transformer en petite souris et de venir voir ce qui se passe dans les ateliers de création de nos auteurs. On va commencer avec Mireille Calmel. Comment ça se passe alors justement quand vous mettez à écrire? C'est papier, crayon, ordinateur, c'est dans un contexte spécial, il faut un isolement particulier.
D'abord, bonjour à tous et toutes, et je m'excuse pour le retard. Il y a beaucoup de monde au monde. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, comment ça se passe pour moi? Il y a eu longtemps papier, crayon, il y a toujours de temps en temps papier, crayon, mais je travaillais avec quelqu'un qui relisait mes pattes de mouche, en fait, et qui rentrait ça sur ordinateur, parce que je m'étais dit jamais l'ordi. Et puis, il s'avère que cette collaboratrice a eu un gros problème de santé, qu'elle n'a plus pu traduire ses fameuses pattes de mouche, et que j'ai trouvé personne pour passer derrière. Enfin, si, un escroc qui, après, mais ça c'est une autre histoire, le droit à chantage, les tentatives de viol, extorsion de foi, et la totale. Donc, j'ai eu très peur et j'ai décidé que non, c'était fini, j'allais me débrouiller toute seule, et donc apprendre à travailler avec l'ordinateur. Voilà, ce qui fait que maintenant j'ai un petit ordinateur qui j'ai appris à taper à peu près aussi vite que ce que je réfléchis. Donc c'est-à-dire très lentement. En train de plaisanterie, voilà. Donc je me suis adaptée et je trouve que c'est un bel outil malgré tout, puisque ça ne me gêne pas de passer de l'un à l'autre. Les images viennent quand même, le plaisir est intact. D'autant qu'il y a toujours quand même un stylo qui traîne pour les recherches, pour noter des petites choses par-ci par-là au fur et à mesure de l'avancée du livre. Donc, bon, le stylo n'est jamais loin, vraiment.
Et il vous faut être tranquillement dans un coin, faut pas qu'on vienne vous embêter pendant que vous écrivez.
Non, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que pendant longtemps, j'ai écrit aussi quand les enfants étaient petits, quand il y avait tout un contexte autour. Donc, non, le bruit ne me gêne pas. Mes personnages et l'univers dans lequel j'évolue en écrivant me happent suffisamment pour que je reste dedans sans m'inquiéter. Aujourd'hui, bon, mes enfants sont grands, ils sont plus à la maison. J'ai un peu plus de disponibilité. En plus, j'ai la chance de vivre dans une petite maison mais au milieu de la forêt, avec le bruit, le grondement de l'océan qui arrive par jour de grand vent. Donc c'est quand même pas le pire des endroits pour travailler, c'est quand même le calme relativement absolu. Et quand mon mari est trop enquiquinant parce qu'il a fini lui-même d'écrire et qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il tourne en rond, je l'envoie aux champignons ou à l'épicerie chez Gremis, et comme ça tout va très bien.
Samantha m'a dit même question. Papier, crayon, ordinateur
Alors beaucoup de notes papier. De la même façon, en toutes circonstances, pouvoir attraper son crayon. En général, on ne dégaine pas forcément l'ordinateur portable dans le métro. Enfin, bon, c'est pas très pratique.
Donc, et les idées viennent n'importe où, n'importe quand, sans prévenir.
Oui, évidemment. Donc, en général, il faut les attraper au bon moment, avant qu'elles ne s'échappent. Donc, c'est souvent des réflexions sur papier, des notes dans un carnet, des bribes, en fait, par moment. Et ensuite, le travail sur l'ordinateur, évidemment, pour tout ce qui est l'ossature globale et le roman en tant que tel. Donc, c'est plutôt de cette façon-là.
Et là aussi, il vous faut des conditions spéciales. Il faut que vous soyez au calme, tranquille.
Alors, pas du tout. Je pense que ça rejoint assez Mireille sur ce point-là. C'est-à-dire que je crois que je fais d'ailleurs assez peur. C'est que j'écris, enfin, je peux écrire en toutes circonstances. Et voilà, enfin, à tout moment... En heure de cours, je dois le confesser, ce qui impressionnait beaucoup mes camarades, parce qu'elles ne comprenaient pas comment j'arrivais du coup à faire abstraction de tout ce qui m'entourait. Mais ça a toujours été comme ça, une sorte de moment où voilà, on passe à autre chose et où la capacité de concentration fait qu'on fait abstraction de ce qui nous entoure. Et voilà, c'est mon cas. Après, il y a toujours des moments plus délicats dans l'écriture, où on a besoin de phases de concentration encore plus fortes qui font qu'on peut avoir besoin d'un contexte beaucoup plus calme, beaucoup plus serein.
Et puis l'entourage comprend mal quand brusquement on éclate un sanglot et qu'il ne comprend pas pourquoi.
Voilà. Magali Sévira, je pense que là, on va changer un petit peu dans ce que vous allez me dire. Même question, alors, papier, crayon, ordinateur?
Alors, Laïlan, j'ai d'abord écrit entièrement au crayon. Je voulais absolument avoir une, comment dire, la preuve que c'était moi. C'était assez idiot, mais ça me permettait de pouvoir écrire n'importe où.
Mais la postérité et... gardera un manuscrit.
Voilà, non, parce que le crayon, il s'efface avec le temps. Et par contre, j'ai commencé à trouver que je perdais beaucoup de temps à réécrire sur l'ordinateur et tout, et puis que je faisais des corrections directement. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à écrire sur l'ordinateur, et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je suis incapable d'écrire sur du papier, sauf les notes, etc. Ça, c'est normal, mais... Sinon, le CTRL-Z et le copier-coller sont des telles touches absolument merveilleuses et fantastiques que ce n'est pas possible de s'en passer. Ou sinon, j'ai besoin d'un contexte... Pour les corrections, ça peut être dans n'importe quelle atmosphère. J'ai trois garçons, je tiens à signaler, et qui, eux, sont en bas âge, petit dernier à 4 ans et demi. Donc là, je les ai enfin fichus à l'école, donc tout va bien. J'ai pu reprendre justement pour sortir une nouvelle trilogie. Et quand je suis en train d'écrire, j'ai besoin d'être séparée du monde. Je suis ma pire ennemie, n'importe quelle excuse sera faite pour faire autre chose ou pour partir ailleurs, pour penser à une scène plus loin. Ou... Donc il me faut une musique en général, c'est plus ou moins la même. Elle tourne en boucle toute la journée, je ne l'entends même plus, elle me plonge en fait dans une transe peut-être, et j'écris. Voilà.
Très bien, oui, c'est compliqué la vie d'écrivain quand même, quand on vous écoute, mine de rien. Pierre. Oui, papier, crayon, ordinateur.
Comme mes camarades, la prise de notes se fait au crayon et sur papier, parce que c'est quand même plus commode, et puis ça peut arriver à peu près n'importe où. Moi, j'ai quasiment des rituels, c'est-à-dire j'écris sur des feuilles, un petit carreau grand format que je plie en deux, pour faire un petit carnet, et j'écris que en petite cape de la moitié de la hauteur des petits carrés. Et à part ça, je suis un garçon naturel, je suis resté très simple. Pour ce qui est des conditions d'écriture, j'écris donc à l'ordinateur essentiellement, parce que ça va plus vite, et puis comme le rappelait Magali, c'est vraiment un outil c'est tellement facile. Mes tout premiers travaux écrits professionnels, je les ai tapés sur des machines à écrire après avec des vraies touches dures, qui faisaient clac clac et des rubans.
Un ruban et tout, voilà, à changer de temps en temps quand même.
Avec
les doigts tout noirs.
Donc je sais ce que c'est, et donc du coup là vraiment l'ordinateur est très 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 commode. Hein, puis ça va plus vite, et puis on peut conserver des tas de textes différents sans se raturer finalement, il suffit de... faire une sauvegarde des sous, changer le nom, paf, on passe à un autre dossier, on garde quand même. Et moi, j'ai besoin de ce... J'ai toujours la trouille de...
Des... Donc, le stylo n'est jamais loin, vraiment.
Et il vous faut être tranquillement dans un coin, faut pas qu'on vienne vous embêter pendant que vous écrivez.
Non, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que pendant longtemps, j'ai écrit aussi quand les enfants étaient petits, quand il y avait tout un contexte autour, donc... Non, le bruit ne me gêne pas. Mes personnages et l'univers dans lequel j'évolue en écrivant me happent suffisamment pour que je reste dedans sans m'inquiéter. Aujourd'hui, bon, mes enfants sont grands, ils ne sont plus à la maison. J'ai un peu plus de disponibilité. En plus, j'ai la chance de vivre dans une petite maison mais au milieu de la forêt, avec le bruit, le grondement de l'océan qui... arrive par jour de grand vent. Donc c'est quand même pas le pire des endroits pour travailler, c'est quand même le calme relativement absolu. Et quand mon mari est trop enquiquinant parce qu'il a fini lui-même d'écrire et qu'il sait pas quoi faire et qu'il tourne en rond, je l'envoie aux champignons ou à aller pêcher les écrevisses et comme ça tout va très bien.
Samantha Veillé, même question. Papier, crayon, ordinateur
Alors beaucoup de notes papier. De la même façon, en toutes circonstances, pouvoir attraper son crayon. En général, on ne dégaine pas forcément l'ordinateur portable dans le métro, enfin bon, c'est pas très pratique.
Donc, et les idées viennent n'importe où, n'importe quand, sans prévenir.
Oui, évidemment. Donc en général, il faut les attraper au bon moment, avant qu'elles ne s'échappent. Donc c'est souvent des réflexions sur papier, des notes dans un carnet, des bribes en fait, par moment. Et ensuite, le travail sur l'ordinateur, évidemment, pour tout ce qui est l'ossature globale et le roman en tant que tel. Donc c'est plutôt de cette façon-là.
Et là aussi, il vous faut des conditions spéciales, il faut que vous soyez au calme, tranquille.
Alors pas du tout, je pense que ça rejoint assez Mireille sur ce point-là, c'est-à-dire que je crois que je fais d'ailleurs assez peur, c'est que je peux écrire en toutes circonstances et à tout moment, en heure de cours, je dois le confesser, ce qui impressionnait beaucoup. mes camarades, parce qu'elles ne comprenaient pas comment j'arrivais du coup à faire abstraction de tout ce qui m'entourait. Mais ça a toujours été comme ça, une sorte de moment où voilà, on passe à autre chose et où la capacité de concentration fait qu'on fait abstraction de ce qui nous entoure. Et bah voilà, c'est mon cas. Après, il y a toujours des moments plus délicats dans l'écriture où on a besoin de phases de concentration encore plus fortes qui font qu'on peut avoir besoin d'un contexte beaucoup plus calme, beaucoup plus serein.
Et puis l'entourage comprend mal quand brusquement on éclate en sanglots et qu'il ne comprend pas pourquoi. Voilà, c'est...
Magali Segura, je pense que là on va changer un petit peu dans ce que vous allez me dire. Même question alors, papier, crayon, ordinateur?
Alors là, Ilan, j'ai d'abord écrit entièrement au crayon. Je voulais absolument avoir une, la preuve que c'était moi. C'était assez idiot, mais ça me permettait de pouvoir écrire n'importe où.
Mais la postérité gardera un manuscrit.
Voilà, non, parce que le crayon, il s'efface avec le temps. Et par contre, j'ai commencé à trouver que je perdais beaucoup de temps à réécrire sur l'ordinateur et tout, et puis que je faisais des corrections directement. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à écrire sur l'ordinateur et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je suis incapable d'écrire sur du papier, sauf les notes, etc. Ça, c'est normal, mais... Sinon, le CTRL-Z et le copier-coller sont des telles touches absolument merveilleuses et fantastiques que ce n'est pas possible de s'en passer. Ou sinon, j'ai besoin d'un contexte... Pour les corrections, ça peut être dans n'importe quelle atmosphère. J'ai trois garçons, je tiens à signaler, et qui, eux, sont en bas âge, petit dernier à 4 ans et demi. Donc là, je les ai enfin fichus à l'école, donc tout va bien. J'ai pu reprendre justement pour sortir une nouvelle trilogie. Et sinon, quand je suis en train d'écrire, j'ai besoin d'être séparée du monde. Je suis ma pire ennemie, n'importe quelle excuse sera faite pour faire autre chose ou pour partir ailleurs, pour penser à une scène plus loin. Donc il me faut une musique en général, c'est plus ou moins la même. Elle tourne en boucle toute la journée, je ne l'entends même plus, elle me plonge en fait dans une transe peut-être, et j'écris. Voilà.
Très bien, oui, mais c'est compliqué la vie d'écrivain quand même, quand on vous écoute, mine de rien. Pierre.
Oui.
Papier, crayon, ordinateur.
Comme mes camarades, la prise de notes se fait au crayon et sur papier, parce que c'est quand même plus commode, et puis ça peut arriver à peu près n'importe où. Moi, j'ai quasiment des rituels, c'est-à-dire j'écris sur des feuilles, petits carreaux, grand format que je plie en deux, pour faire un petit carnet, et j'écris que en petites capes de la moitié de la hauteur des petits carrés. Mais à part ça, je suis un garçon naturel, je suis resté très simple. Pour ce qui est des conditions d'écriture, j'écris donc à l'ordinateur, essentiellement, parce que ça va plus vite, et puis comme le rappelait Magali, c'est vraiment un outil c'est tellement facile. Mes tout premiers travaux écrits professionnels, je les ai tapés sur des machines à écrire après avec des vraies touches dures et qui faisaient clac-clac et des rubans.
Un ruban et tout, voilà, à changer de temps en temps quand même.
Ou à retourner, enfin bon.
Avec les doigts tout noirs et tout.
Donc je sais ce que c'est, et donc du coup, là vraiment, l'ordinateur est très 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 commode. Hein, puis ça va plus vite, et puis on peut conserver des tas de textes différents sans se raturer finalement, il suffit de. Faire une sauvegarde des sous, changer le nom, paf, on passe à un autre dossier, on garde quand même. Et moi, j'ai besoin de j'ai toujours la trouille d'effacer un truc qui va m'être utile plus tard. Alors, j'ai des dossiers qui s'accumulent avec des versions de texte différentes. Parfois, si je les superposais, je suis sûr que je ne verrais aucune différence. Mais dans ma tête, c'est important que tout y soit. Pour les conditions, je travaille essentiellement dans mon bureau, chez moi. Plutôt dans le silence, j'écoute pas de musique. Sinon, là, pareil, quelques rituels aussi, un petit trait d'eyeliner, mon costume de Batman.
Ça ressemble à quoi le bureau de Pierre Pével?
Alors, les gens imaginent volontiers, vu ce que j'écris, que j'ai une miniature du calendrier Richelieu, deux épées, un crâne, et puis des mini-figurines Star Wars, et c'est exactement le cas.
Avec la bougie sur le crâne, évidemment. Mais plus sérieusement alors.
Ah non, mais très sérieusement, c'est exactement comme ça qu'il est. J'ai ma bibliothèque, j'ai une bonne bibliothèque sur le XVIIe siècle, comme on peut le prévoir sans doute. Les livres dont j'ai besoin, des livres de référence, des dicos, ce genre de choses.
Et ça rassure d'être dans cet univers-là?
Ah oui, alors là, ouais. Moi, c'est pour ça que j'aurais du mal à écrire ailleurs que chez moi, quand bien même je serais au calme et tranquille et apaisé. C'est... Là aussi, je ne sais pas comment ça se passe dans ma tête, mais en principe, il suffit qu'on m'éloigne d'un bouquin de référence pour que j'en ai tout de suite un besoin urgent, nécessaire. Ou alors, je vais être convaincu que l'info dont j'ai besoin, elle se trouve exactement dans le bouquin que j'ai pas sous la main. Donc, il vaut mieux que je sois au milieu de mes bouquins à moi, où j'ai tout, et du coup, je n'en ai pas besoin d'eux, et je m'en sers pas. Et, voilà. Mais au moins, je sais que si c'est nécessaire, je peux me retourner vers un livre, un dico.
Internet.
Alors, Internet, j'utilise aussi beaucoup pour faire des recherches, des bibliographies. Là aussi, c'est un outil merveilleux qui présente quand même ses désavantages. Qu'on accède à Internet sur le même outil que j'utilise pour écrire. Et donc la tentation est souvent grande. De prolonger, parce que la procrastination à base de recherche de documentaires, je peux vous assurer, de documents, je maîtrise ça à un niveau rare, avec la recherche du détail, du bidule infâme qui va faire que ça va m'occuper, et je me dis à la fin de la journée, j'ai pas beaucoup écrit. Ouais, mais j'ai quand même fait des belles recherches. Là, je suis sûr de la couleur du pourpoint de Richelieu le 17 janvier 1530, donc ça va, j'ai bien progressé. Ah, mon bouquin se passe pas en 1530, donc. Là, c'est le seul défaut. C'est aussi pour ça que je me tiens absolument à l'écart de tous les jeux de rôle en ligne, les MMORPG, rien que les sites de poker suffisent déjà à ma tentation. J'essaye de faire que, à la mesure du possible, l'ordinateur, même connecté, reste un pur outil de travail. Parce que fondamentalement, je préfère autre chose que travailler.
Mireille Calmel, ça ressemble à quoi votre bureau? Le même bazar?
À peu près, oui. Sauf que moi, je viens de quitter une grande maison dans laquelle j'avais un bureau qui était à peu près l'équivalent de ça, avec toutes les petites fées que m'offrent les lecteurs, entre autres, pour une toute petite maison, comme je viens de le dire, au milieu des bois. Donc j'ai encore beaucoup, beaucoup de cartons et pas de bureau. Ça va venir, mais pour l'instant, c'est un vaste chantier. Donc je me promène de temps en temps, je déambule dans l'espace qui sera mon futur bureau en me disant « Alors là, je pourrais mettre ça, là, je pourrais mettre ça. » Donc c'est encore un petit peu compliqué. Voilà, c'est pour ça que je dis que j'envoie mon mari jouer plus loin. Cela étant, j'ai quand même fait mon petit coin avec effectivement le principal des livres de référence, sachant que moi je travaille pour mes recherches avec beaucoup de gens aussi. Le téléphone suffit dans ce cas-là pour leur dire « Ah, il est là !» Voilà.
Vous avez des rituels aussi, comme Pierre, des manies, des...
Des rituels, des manies.
Comment ça, des manies?
Je sais pas, je
n'ai pas dit honteuse.
Je n'ai pas trouvé qu'il avait des manies, je trouve qu'il a... Non, c'est... je vais marcher. Je vais marcher tous les jours, dans les bois ou sur la plage, quel que soit le temps. Des fois, je reviens avec un gros rhume. L'avantage, c'est que moi, je n'ai pas Internet, parce que je suis tout en habitant dans le Médoc, donc pointe de la Gironde, c'est une presqu'île. J'ai l'impression de vivre au bout du monde où Internet n'arrive toujours pas à être connecté, sinon par une clé 3G qui régulièrement me dit que mon crédit est terminé, ou par mon iPhone. Donc ça limite la possibilité de faire des jeux de rôle en ligne, ou forcément de s'énerver sur trop de recherches. Voilà, donc je passe par d'autres créneaux. Donc l'ordinateur ne me sert effectivement qu'à ça. Après la musique, moi je chante des oiseaux, elle me suffit largement, puisque la musique, elle vient forcément dans la tête dès que je travaille. Donc, et c'est la musique des mots, c'est la musique des personnages, liée aux émotions, liée à tout ça. Donc, j'en ai pas plus que ça besoin, je l'écoute après, et pas du tout... voilà, sauf quand mon fils est dans le secteur, ce qui arrive, et comme il joue de la mandole. Bon, voilà, là j'ai un petit retour aux sources, c'est rigolo.
Samantha, vous qui écrivez presque partout finalement, est-ce que je dois vous poser la question de savoir dans quel environnement vous écrivez?
Moi, en jeune salarié sortant des études sur Paris, j'ai un minuscule appartement, un petit studio, dans lequel en fait j'écris et j'ai comme Pierre cette horrible tentation de la connexion Internet et des recherches. Bon, voilà, qui peuvent finir sur Facebook, ce qui peut être très difficile.
Oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un à qui on peut poser une question.
Exactement. C'est, voilà, Karina Rosenfeld disait que c'était un peu sa machine à café dans la journée. Et c'est à peu près ça, sauf que voilà, la pause peut s'éterniser un peu trop longtemps. Du coup, j'ai une méthode extrêmement radicale, c'est que je vais au café en bas de chemin. Donc là, je n'ai pas Internet. Quoique j'ai vu qu'ils avaient installé un Wi-Fi, mais je n'essaye même pas de m'y connecter parce que je ne veux pas tomber là-dedans. Et en fait, j'apprécie beaucoup de côtoyer des gens, même si je ne leur parle pas, mais d'avoir un espèce de brouhaha ambiant. D'accord. Ou de voir la vie autour de moi. Donc je me mets en terrasse, surtout quand il fait beau avec mon ordinateur, et j'écris là la plupart du temps, au final.
Ah oui, et vous êtes vraiment... faut qu'il y ait de l'ambiance, quoi, autour de vous.
Pas forcément, mais c'est vrai que enfin, la problématique quand on commence à se consacrer un peu à l'écriture et qu'on sort d'un mode de vie où on voit des gens au quotidien au travail, il y a cette solitude obligatoirement, puisque voilà, souvent on fréquente des gens qui travaillent eux la journée et qui, voilà, qu'on voit le soir, mais en tout cas, toute cette période-là, on est absolument seul et appréciant la solitude, mais pas à trop forte dose, j'apprécie juste de voir la vie un peu bourdonnée comme ça autour.
Magali, quoi ça ressemble autour de vous quand vous écrivez, sachant qu'on l'a dit
C'est une grosse maison en travaux. mon futur bureau que j'aurai, je pense, dans 10 ans. Et pour l'instant, un merveilleux atelier où on peut trouver tout et c'est fantastique, surtout des clous et des vis. Ou sinon, bah, hélas, je travaille sur un canapé, vautré sur le canapé, et mon kiné commence à me dire que non, il faut absolument trouver un coin dans la maison pour avoir un fauteuil et un bureau, parce que ça, c'est pas possible.
J'ai fait ça longtemps. Hein.
Vous m'avez raconté il y a quelques mois qu'il y avait une période où il fallait absolument vous vous isoliez complètement, voire carrément partir de chez vous.
Disons que pour ce livre-là, le premier volume, je l'ai fait en 5 ans, puisque j'ai fait 5 ans de thèse plus un bébé. Le deuxième, j'ai fait en 5 ans, parce que j'en ai eu deux autres enfants, dont le troisième qui n'était vraiment pas prévu, qui a fichu pas mal de bazar en termes de déménagement, pas de garde, etc. Donc. Et le troisième tome, j'avais enfin mis mes fils à l'école, j'ai mis 2 mois. Un mois où je me suis isolée, où je les voyais à peine. Et 12 jours où je savais que le premier tome allait sortir et je voulais surtout pas qu'il y ait d'incohérence, donc il fallait que je le finisse le plus vite possible. Je suis allée 12 jours à Nantes, dans le studio d'une amie. Je n'ai fait que ça, du matin au soir. Je mangeais juste et je remettais à écrire. Je mettais plus de 2 heures à m'endormir, puisque quand j'avais lâché, j'avais le carnet à côté de moi et j'arrêtais pas de. Et ça. Et c'était assez atroce. Mais c'est bon, le tome 3 est terminé. Il est en fond vert. Et que action et dialogue. Mais.
Alors là, on a parlé de la partie presque technique, en tout cas de l'écriture, mais évidemment, quand on a envie de vous voir un petit peu travailler les uns les autres, on a envie de se demander aussi comment vous structurez vos idées, comment elles prennent vie, comment elles apparaissent. Magali, comment vous travaillez là-dessus justement? Parce que je crois que vous aussi, vous avez
une
construction particulière.
J'ai le début, j'ai la fin. Surtout l'histoire de mes personnages principaux, quelques scènes du milieu qui les concernent, surtout eux, et après je brode, et c'est les personnages secondaires qui vont plus ou moins prendre de l'importance, plus ou moins m'amener dans des scènes que j'avais même pas imaginé au départ et qui vont m'emporter en fait.
Le tout dans un univers, dans un monde qui est très structuré, ou en tout cas peut-être que le lecteur ne se rend pas forcément compte de tout ça.
J'ai mis 10 ans à l'écrire, alors oui, le monde, je l'ai bien en tête.
Jusqu'au plus petit, jusqu'à...
Bah, disons que j'étais frustrée par mon passif de biologiste que j'utilisais pas du tout dans la première trilogie. Alors là, j'ai eu vraiment envie de me défouler. Donc j'ai fait un environnement désertique sur lequel il pleut depuis 9 ans, donc avec un changement climatique énorme, une faune et une flore tout à fait endémiques. Donc je me suis éclatée à même connaître toute la biologie de mes animaux. Et puis après, quand mon mari m'a fait... Combien il y a d'habitants dans des villes? Et comment t'évacues de la pluie maintenant que ça arrive? Et donc il a fallu que je m'occupe de la société, des commerces, etc., que j'avais pas du tout pris en compte au départ. Et donc ça s'est développé de plus en plus, de plus en plus. C'est énorme.
Et là, c'est quoi? Ça gagne les murs?
J'ai quelques cartes au mur, mais elles ne restent pas en place puisqu'on détruit les murs très, très régulièrement. Donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai des boîtes avec plein de choses dedans, je ressors des photos d'un voyage en Mauritanie qui m'a permis de mieux décrire le désert, donc je cherche telle photo, oui, c'est cet environnement que je veux, enfin, voilà, mais tout est pas mal enfermé et pas de bureau.
Mais c'est très minutieux.
Oui, j'aime que ça soit cohérent, le plus possible. C'est-à-dire que je fais même une hybridation entre deux de mes monstres, j'ai eu besoin qu'ils soient cousins pour faire un hybride stérile, mais il fallait que génétiquement ce soit possible.
Samantha, comment ça se passe justement? Est-ce que là aussi il y a besoin vraiment d'une grosse architecture dans votre travail?
J'ai envie de dire que ça dépend vraiment des romans, étant donné que j'ai aussi écrit des romans réalistes. Et en fait, chaque roman a été écrit de façon complètement différente. certains archi-structurés, notamment le cycle de la gloraison. J'avais un synopsis de 60 pages avec mes chapitres, ce qui se passait par chapitre, tout en octroyant en fait la liberté de pouvoir bousculer un peu les choses au moment de l'écriture, puisque bien sûr il y a des choses un peu inattendues qui peuvent surgir, des personnages qui vont prendre un peu plus de place que prévu, ou une scène finalement qu'on va retirer, etc. Donc là tout était absolument structuré en 32 chapitres par tome, c'est un diptyque en plus avec des interludes et des systèmes d'écho qui obligeaient aussi à cette structure, et une veine légèrement policière qui faisait que, évidemment, si on veut un peu brouiller le lecteur, donner des faux indices et avoir des petits moments où il se dit « elle m'a bien eu », il faut jouer sur une structure et préparer vraiment en amont le travail. Ensuite, le roman épistolaire que j'ai écrit, je l'ai écrit quasiment d'une traite en un mois et il a absolument coulé de source. Je savais où j'allais. Comme Magali, l'idée d'aller à un point A à un point B sans trop savoir parfois ce qu'il y a entre. Et voilà, ça par contre, c'était une écriture assez fulgurante.
Et lorsqu'on on crée un univers aussi structuré que celui que vous venez de nous décrire, on y vit vraiment ? On a cette sensation-là d'être soi-même dans l'univers ? Ou est-ce que finalement, comme on en est le créateur, on en reste extérieur ?
Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour ma part, j'avais vraiment l'impression de survoler cet univers-là, bien sûr de m'y plonger, mais sans une projection non plus viscérale. Bien sûr, il y a des moments où je pense, comme vous tous, on écrit des scènes qui nous arrachent quelques larmes, on a des moments de vibration avec les personnages, mais du point de vue de l'univers, ces images-là accompagnaient, et une fois que... Enfin, j'ai pas eu l'impression d'y vivre véritablement, c'était plus comme une sorte d'accompagnement permanent que d'immersion totale, en fait.
Mia et Calmel, quand justement vous nous emmenez au XIIe siècle, par exemple, avec Aliénor, vous y êtes, vous, au XIIe siècle ?
Complètement. Non, je racontais tout à l'heure que j'étais dans les premiers temps où j'écrivais d'ailleurs, moi j'ai 17 ans pour l'écrire, hein, pour les mêmes raisons. Hein. Oui, on est maman avant tout. Et donc j'étais tellement en immersion que j'avais mis le réveil pour pas oublier d'aller chercher les enfants à l'école. Ouais. Bah, c'est pas très.
Je l'ai fait aussi.
je compatis. Du coup, j'étais au plein milieu d'une scène de croisade, donc très rythmée, avec les chevaux, les sabres, les machins, les gens qui s'entretuent et tout. Donc j'étais dans la poussière, l'odeur du sang, le tout là. C'était tout en. Et puis d'un coup, il y a un truc complètement anachronique et hétéroclite qui se met à sonner. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc là-dedans ? Mais d'où ça vient ? Je regardais les montagnes autour, je regardais le machin, je voyais pas. Je comprenais pas. Il m'a fallu un petit moment pour réaliser que. La vérité, c'était pas les images qui arrivaient, mais ce dans quoi je me trouvais. Donc, hop, je posais le stylo, là, ça s'arrête en général. Puis là, j'ai regardé autour de moi, je fais ah, réveil. Réveil. Bon, d'accord, réveil. Et maintenant, pourquoi je l'ai mis celui-là ? Donc, il a fallu le temps que ça arrive jusqu'aux neurones qui étaient un peu encore encombrés de poussière. Là, j'ai fini par dire, les enfants, vite, voiture dans le garage. Alors, garage, alors, clé, trouver les clés. Puis je me suis retrouvée dans la voiture, j'avais des images de chevaux qui galopaient à toute allure. Et là, je me suis dit, ça sert à quoi ? Je la mets où ? J'en fais quoi ? Bon, voilà, tout ça, ça a pris un quart d'heure et mes enfants ont dit, qu'est-ce que tu faisais, maman, quand même, hein ? Rien, mon chéri, rien, je rangeais les courses.
Voilà. Et au niveau construction du roman, ça se passe comment là aussi ? Vous allez d'un point A à un point B,
la seule structure que je m'autorise, parce que j'ai essayé moi de faire des synopsis, de faire tout un tas de choses, et j'ai structuré, là c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vraiment me retrouver face à la page blanche. Donc j'en ai pas trouvé d'autres, j'ai trouvé que celui-là, donc c'est déjà pas mal. Je peux pas. La structure elle-même, elle est faite par le biais de l'histoire, avec un grand H, qui, et des événements historiques qui, eux, bon, comme je sais que c'est le cas pour Pierre et pour Magali, où véritablement on va chercher jusqu'au plus petit détail pour que ce soit crédible, pour que vraiment notre histoire du coup puisse se développer dans un contexte porteur. C'est elle qui guide, voilà, c'est elle qui guide, parce qu'il y a des incontournables que je considère comme incontournable. Je ne vais pas faire revivre un personnage qui est mort à tel moment et dans telle circonstance parce que c'est pas logique, même si des fois je souffre beaucoup à l'idée de perdre. Et à partir de là, ben, le reste, c'est... Et quand j'arrive au bout du cinquième tome, comme ça a été le cas pour la saga du Chant des Sorcières, et que je vois que tout colle, je me dis, waouh,
Mais c'est magique. L'écriture, c'est la liberté, finalement.
Complètement. Ça reste, même si j'ai eu la grande chance de vivre de ma plume depuis 10 ans, j'ai pas oublié que voilà, j'écris depuis l'âge de 9 ans, et qu'entre mes 9 ans et mes, 40, et mes 37, où j'ai eu la belle surprise du succès du Lied d'Aliénor, c'était ma récréation, l'écriture. Donc c'était vraiment, j'y allais parce que c'était le seul moment où, que j'avais de, à moi. Et ça allait rester. Voilà, donc quand je me mets en écriture, même si je bosse 12 heures ou 14 heures par jour, ce qui arrive parfois, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression d'être. J'ai vraiment l'impression d'un moment à moi, complètement. Quel que soit ce qui se passe autour, c'est mon petit jardin secret, voilà, ma petite Madeleine.
Pierre, à ton tour, tu. Voilà, toi aussi, tu as une structure, tu as un plan, quelque chose que tu suis, ou finalement, bah, c'est ton imaginaire qui t'entraîne ?
Les deux, c'est-à-dire que quand je commence l'écrit, tel que je vois les choses, j'ai deux métiers. J'ai un premier métier qui est scénariste, j'invente l'histoire, je la structure, je réalise un synopsis extrêmement détaillé, chapitre par chapitre, scène par scène parfois, avec des éléments de dialogue s'ils me viennent, des éléments de description, des notes, enfin, tout ça est très, très très développé le plus possible. C'est toujours si je n'écris pas le bouquin avant d'écrire le bouquin. Et une fois que j'ai ça, que je suis bien sûr de mon histoire, je trouve que elle est bonne au niveau de la structure, que le rythme narratif est bon, que les scènes s'enchaînent bien, correctement, dans la mesure du possible, si je peux avoir une alternance élégante entre jour-nuit, ce genre de choses, j'aime bien aussi. Une fois que je suis sûr de mon histoire, et j'en suis sûr quand j'en ai parlé avec mon éditeur et qu'il me dit « Ouais, en effet, c'est bon, vas-y, Coco. » Il m'appelle Coco. J'aime pas trop, mais je n'ose pas le dire. Une fois qu'on en est parti, là, j'ai un deuxième métier qui est romancier. Et le romancier, lui, il raconte par écrit, et il raconte l'histoire qu'un autre gars, avant, une autre partie de sa tête, a imaginé. Et là, je respecte scrupuleusement mon script, sinon ça aurait quand même pas beaucoup de sens de l'avoir fait. Par contre, il peut arriver que je me rends compte une fois qu'on y est vraiment, j'ai envie de dire une fois qu'on est confronté à la vraie réalité, qu'on a quitté le théorique pour arriver au vrai de l'histoire et au vrai de la narration, il peut arriver que je me rends compte de soucis, ou alors que je découvre que finalement tel personnage, c'est pas tellement logique qu'il agisse de telle manière et il faudrait peut-être trouver une bonne raison de le faire, ou trouver comment je vais faire s'il ne la fait pas, cette fameuse chose. Donc, à quelques exceptions près, quelques ajustements, je suis mon script assez scrupuleusement.
Il n'y a pas d'engueulade entre le scénariste et le romancier ?
Non, ils ne se rencontrent pas.
Jamais ?
Non, se saluent quand ils se croisent, quelques fois par année, et puis sinon, non, ils ne se disputent pas. D'ailleurs, le script est souvent assez bien à ce point construit, bâti et établi que je peux écrire les chapitres dans l'ordre différent. Je ne suis pas toujours lors de la narration. Il m'est déjà arrivé, et là c'est par souci d'efficacité. C'est-à-dire que plutôt que de bloquer sur un chapitre qui demande du mal parce que je ne suis pas d'humeur à décrire une bataille ou au contraire avoir une scène intimiste, bien, je me dis, plutôt que de faire semblant de la faire et donc d'avoir une écriture laborieuse et de passer beaucoup de temps à écrire pas grand-chose que très probablement je vais détricoter le lendemain parce que ça n'aurait pas été bon, je me dis, laissons ce chapitre de côté, et qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Je laisse tomber le chapitre 6 et je vais au chapitre 17 que j'ai très envie de faire. Et du coup, comme j'ai très envie de faire le chapitre 17, eh bien, il vient vite, il vient commodément. Et une fois que je l'ai fait, souvent je suis d'humeur à reprendre au chapitre 6 ou pas. Donc voilà, j'écris quand même pas dans un désordre absolu comme ça, hein, mais je peux permettre de faire des retours vers le futur de temps en temps, pouf, et de aller-retour.
Comme un cinéaste finalement.
Ah oui, de toute façon, mes scènes, mes chapitres, physiquement j'ai un tableau, j'ai un plus des grands tableaux quadrillés chez moi sur lequel je colle mes post-it de couleur avec les titres des chapitres. J'ai à peu près la même chose sur un tableur avec pareil des cases que je peux déplacer qui se décalent tout. Ça aussi c'est très commode, ça permet de vérifier l'alternance des scènes. Si tout se... Surtout quand on a plusieurs intrigues croisées, qu'on a différents personnages, c'est bien de ne pas en laisser tomber certains pendant trop longtemps parce que le lecteur risque de les oublier. Il faut que les scènes s'alternent bien. Donc ça oui, c'est un travail de construction qui est... Et d'ailleurs que j'aime beaucoup faire, moi j'aime bien ce travail-là, sur la pure, juste l'histoire.
Oui, parce que ça peut être très ludique finalement.
Oui, et là encore, il faut faire attention à ne pas se laisser non plus trop emporter, à trop corriger des trucs qui finalement, faut savoir s'arrêter. Au bout d'un moment, il faut dire, bon, j'ai quand même un bon synopsis, vas-y, laisse-toi quand même des trucs à imaginer pour l'écrire. Quoi.
Tu as commencé à parler tout à l'heure des recherches, forcément c'est quelque chose d'important. Les recherches, tu les fais toujours en amont ou est-ce que tout au long même de l'écriture, il y a encore besoin d'aller vérifier des choses, d'aller chercher des éléments?
Oh, ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Il se trouve que bon, pour les larves du cardinal, début du XVIIe siècle, l'époque des Trois Mousquetaires, si je l'ai écrit, c'est par admiration pour Alexandre Dumas et les Trois Mousquetaires en particulier, roman que j'avais lu il y a 20 ans maintenant. Et à partir de cette lecture-là, je me suis pris passion pour le style du KPDP, le genre KPDP en général, pour ce siècle-là en particulier, et j'ai commencé à me documenter, à faire des recherches, mais par goût personnel, quoi. Je ne suis pas historien, donc j'ai lu des bouquins de plus en plus, et puis de plus en plus précis, de plus en plus pointus, ce qui fait que, mais sans même savoir à l'époque que j'allais être romancier, et encore moins savoir que j'allais pouvoir en faire un matériau romanesque. Quand j'ai décidé d'écrire les larves du cardinal, quand j'ai décidé ça, j'avais plus de 20 ans de documentation. Alors, ce n'était pas toujours bien formel, il a fallu que je sois un peu plus sérieux, que je prenne des notes, que je fasse des fiches pour pouvoir les consulter régulièrement, mais sinon, j'avais déjà un peu près tout. Il peut arriver, en effet, au fil de l'écriture, que je décide que telle scène se passe dans tel lieu, et puis je peux remettre à plus tard la recherche sur l'architecture exacte du lieu. Ça peut arriver, donc, mais c'est plutôt des oublis. Quoi. C'est-à-dire, je me dis, je vais le faire, et puis j'oublie de le faire, et quand je suis tout d'un coup, et ils entrèrent dans, je l'ai pas, faut que je cherche, faut que je trouve. Mais en général, je sais parfaitement où c'est, où est la doc, où est le truc, donc ça se passe bien. Mais tout ça, la recherche de doc et son exploitation, c'est en amont, très en amont de l'écriture en général.
Mireille, vous aussi, c'est la même façon de procéder.
Oui, complètement. Oui, j'ai besoin de tout avaler d'abord et de laisser décanter avant de mettre à écrire. Parce que c'est le problème souvent d'un roman historique et de. Je suis une raconteuse d'histoire, donc je n'ai vraiment pas été confrontée à ça, mais on a toujours tendance à vouloir en mettre trop, à mettre trop de détails, trop de descriptions, trop de choses pour faire vrai. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait au début, quoi. Et puis quand on relit, on trouve que c'est... Justement, il y en a trop. Donc après, il faut enlever. Donc l'idée, c'est vraiment d'être... Je décris plus les atmosphères que les lieux. Voilà. Et donc, à partir de là, j'avale tout. Une fois que c'est avalé, on est dans l'atmosphère, on n'est plus dans le détail. Et après, je reviens effectivement sur quelques points quand je me dis « Ah, celui-là, j'ai oublié !» Voilà.
Je voudrais préciser quelque chose tout de suite, et je ne sais pas si c'est pareil pour Mireille, mais le fait de travailler sur des vrais lieux, une vraie époque et des vrais événements n'empêche pas, ou en tout cas ne doit surtout pas empêcher le fait qu'on se les approprie.
Oui,
et moi, je décris beaucoup Paris. J'ai décrit beaucoup dans Les Larves du Cardinal, mais c'est également dans un autre bouquin qui se passe au début du XXe siècle, intitulé Les Enchantements d'Ambremer, où c'est un Paris qui ressemble quand même beaucoup, du point de vue du plan, à celui d'aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'on les étudie, on les approprie, et en fait, c'est toujours une recréation.
C'est une licence romanesque ?
Non, c'est le fait que ça passe par notre filtre, par notre sensibilité, par notre empathie. Et donc on se retrouve vraiment à le recréer, et autant que Pratchett crée ou recrée Hank Moorpeck, et à tel point que moi il m'est déjà arrivé plusieurs fois, on est convaincu par exemple que je connais très bien Paris maintenant, voire que je suis parisien, alors que pas du tout. Dans les Enchantements d'Ambremer, beaucoup de scènes se passent dans l'île Saint-Louis, et pas longtemps, l'anecdote est assez marrante, une amie me dit bon, on va aller à l'île Saint-Louis, ça va te faire plaisir, tu vas retrouver les lieux que tu as bien, que tu as décrit, tu as vraiment capté l'ambiance de l'île Saint-Louis. Moi, je lui dis, j'ai jamais foutu les pieds à l'île Saint-Louis, moi j'ai un plan, j'ai vu comment étaient les rues, je me suis dit ça doit être tranquille, et puis bon, et j'ai vraiment recréé le truc. Et ça, c'est une question d'empathie qu'on a, aussi bien avec des lieux véritables, historiques, et des événements historiques, voire avec des personnages historiques, qu'avec des personnages qu'on peut créer. Et moi, j'ai fait les deux. J'ai écrit de la fantaisie pure jus avec des lieux totalement imaginaires, des personnages qui n'étaient pas historiques, etc. Mais je sais que, dans ma tête, pour moi, que le Paris que je décris, c'est un Paris historique, mais il a un degré de réalité romanesque égal à la ville de Samarrande que j'ai pu créer pour une autre série.
D'autant plus, je suis complètement d'accord avec lui, c'est que les trois quarts des lieux dont on parle n'existent plus en tant que tels. Et puis, quand bien même, quand vous rentrez dans une pièce, d'accord ? Aujourd'hui, hein, vous rentrez dans une pièce, est-ce que vous allez dire, ah, alors là, le stuc, il est bleu jusque-là, il est vert jusque-là, il y a ci, il y a là, le... Non. Vous n'allez pas compter le nombre de rideaux, vous n'allez pas regarder. Ce que vous retenez, finalement, c'est une atmosphère et c'est l'imprégnation du lieu sur ce que vous êtes au moment où vous y rentrez. Idem pour les gens qu'on rencontre, qu'on croise. On ne va pas dire, à moi qui ai vraiment un très très gros bouton sur le nez, là on le remarque. Mais sinon, c'est l'impression qui se dégage de l'être que vous croisez. Et finalement, c'est ça qu'on restitue. Et ça, c'est aussi ce que les historiens ont restitué. Parce qu'il y a... Les historiens sont des chroniqueurs et il n'y a aucun, vous avez suffi d'allumer la télé, vous prenez quatre chaînes différentes, pour le même événement, vous avez quatre visions de l'événement différentes suivant le journaliste qui l'a fait. C'est pareil pour les historiens, c'est pareil pour les chroniqueurs de l'époque. Donc en fait, la vérité historique, elle n'existe que par le regard de celui qui la transmet. Donc les romanciers, on a cette chance formidable de, à un moment donné, d'intégrer toutes les visions de ces gens-là. Et de les oublier après pour se dire, bah oui, si je, qu'est-ce que je, voilà, moi, je rentre dans cette pièce et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois, moi?
Et sur une époque comme le XIIe siècle, est-ce que justement il y a une documentation qui est abondante ou est-ce que c'est difficile?
Elle est très succincte, il y a des choses, mais c'est pareil, la documentation, la majeure partie de la documentation est visible par le regard de l'Église. Parce que c'est eux qui avaient et qui écrivait, qui racontait, qui... donc il y a une partie forcément qui est faussée d'entrée de jeu parce que l'omniprésence de l'Église faisait qu'elle ne pouvait pas être dans la tête d'une reine, d'une femme, par exemple. C'est impossible. Et il n'y a pas de témoignage de femmes du Moyen-Âge directement. Il y en a quelques-uns, il y a quelque chose à travers des lettres qu'Aliénor a pu écrire ou des choses comme ça qu'on a pu conserver. Mais c'est tellement peu au regard de ce qui était la réalité de ce temps-là. Après, moi, j'ai envie de dire, je crois que ça se défend, la peur sur un champ de bataille, je pense qu'elle est elle était la même au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Je ne sais pas, le cœur qui palpite, parce que brusquement, vous trouvez face à l'être que vous aimez, il est le même, même si il est codifié par une éducation différente, par tout un tas de choses différentes. Je pense que l'émotion, elle est la même. Le ressenti, il est le même. Après, qu'on l'interprète différemment ou qu'on le décrive différemment, c'est autre chose. Donc, je crois qu'en tant que romancier, si on ressent l'émotion, si on vibre à ce moment-là de la même manière que nos héroïnes ou nos personnages, forcément, on est dans une vérité. Même si ce n'est pas celle de l'histoire, on est dans une vérité.
Alors là, on va quitter le monde que l'on connaît, en tout cas, hein, comme on vient de le dire avec Pierre il y a quelques instants, pour peut-être des univers là, différents. Est-ce que justement, on travaille de la même manière, Samantha? On fait des recherches quand on travaille sur un monde qu'on crée soi-même de toutes pièces?
Oui, je pense que Magali sera d'accord sur le fait qu'il y a un travail de recherche qui est différent parce qu'on ne va pas chercher sûrement les mêmes types d'informations. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher un lieu qui existe pour voir quel est le plan. Mais par contre, moi j'ai fait des recherches sur les pigeons voyageurs, par exemple, sur combien de temps un pigeon mettait pour aller à un point A, à un point B, pour être à peu près crédible. Les chevaux aussi, la cadence des chevaux. Les bateaux aussi, enfin, quand on a des scènes en bateau et qu'on n'a jamais mis des pieds sur un bateau et qu'on ne connaît rien en navigation et qu'on veut juste avoir au moins une scène un minimum crédible, ça implique de s'y intéresser. Donc il y a des phases comme ça de documentation par un souci de cohérence. Même si on sait qu'il y aura peut-être trois lecteurs qui vont nous dire « Oui, par contre, là, tes pigeons, ça ne marche pas, etc. » C'est très important pour que finalement, on ait cette suspension de crédulité du lecteur et que ça tienne la route. Après, en plus de ça, il y a toute la problématique des lieux pour les inspirations. J'ai aussi cherché des images d'endroits. Un désert, à un moment donné, quel désert? Et c'est justement dans cette espèce de recherche d'images qu'on va après avoir d'autres images qui surgissent en nous, des symboles, etc., qui vont nous permettre de décrire, puisque finalement la fantaisie, comme tout travail d'écriture, mais la fantaisie s'est exacerbée, c'est finalement cette image mentale qu'il faut transmettre au lecteur par le biais des mots. Et du coup, ça implique déjà d'avoir une bonne idée de ce qu'est l'image en question.
Et là encore, c'est plutôt en amont, ou est-ce que finalement tout au long du processus d'écriture, il va y avoir besoin d'avoir recours à ces recherches ?
Là, tout dépend de comment naît le projet, mais même en ayant un synopsis très structuré, etc., à un moment donné, on arrive à un lieu, on se dit, bon, c'est exactement comme le moment de la porte. Bon, bah alors en fait, à ce moment-là, j'avais pas vraiment prévu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais il faut quand même que j'aille voir à quoi ça peut bien ressembler, etc. Donc j'ai envie de dire que c'est une sorte qui a les deux, quoi. Il y a vraiment un travail en amont pour préparer le terrain, et puis finalement, du peaufinage, des petits détails comme ça ajoutés tout au long de l'écriture.
Ça paraît pas un peu paradoxal finalement d'être dans un monde imaginaire et finalement de le créer en référence à un monde réel?
Ah si, je pense que c'est tout l'enjeu de la fantasy et tout son paradoxe, que finalement on est censé être dans l'exacerbation des possibles et que parfois on revient à des choses très connectées à notre monde parce qu'on est, malgré tout, on vit dans ce référentiel, on vit dans cette culture et ça donne très envie aussi d'être tout à fait capable de renverser ça. J'ai fait des études aussi d'ethnologie à côté, suivi des cours qui m'ont passionnée. On est face à des systèmes familiaux complètement différents, face à des cultures complètement différentes, qu'on peut avoir envie de retranscrire, mais qui sont aussi après des choix et des partis pris pour se dire là je vais faire quelque chose qui va complètement renverser.
Les personnages sont obligés de parler français par exemple aussi.
Oui, alors là la langue c'est aussi une question, je ne sais pas pour toi Maggie, mais une question très intéressante, c'est que.
J'évite le sujet.
Voilà. Personnellement, je me suis facilité entre guillemets la tâche, c'est-à-dire que ce sont trois continents et on apprend, ils ont une base commune, c'est-à-dire qu'il y a des variations linguistiques forcément, puisqu'il y a des éloignements géographiques. On est sur une base commune qui facilite quand même la vie d'un point de vue narratif.
Magali, là aussi, vous avez déjà un petit peu évoqué le sujet, mais là aussi, vraiment, beaucoup de travail de recherche en amont.
Pas tant que ça en amont, en fait, je suis peut-être la mauvaise élève, mais je pars sur l'histoire et c'est tout d'un coup je me retrouve, c'est la description d'un village médiéval, on va aller voir, regarder ce que c'est, je veux que mes créatures ressemblent à des chauves-souris, comment ça vole déjà une chauve-souris? Et c'est vraiment après coup.
C'est du tricot pratiquement.
Oui, c'est pour ça que moi je perds beaucoup de temps sur Internet, énormément, et je suis incapable aussi de ne pas avoir une liaison parce que c'est je peux pas répondre à la question tout de suite, instantanément, je ne peux plus avancer, c'est terminé. C'est voilà.
Et puis effectivement là, autant j'imagine que pour Pierre et Mireille, c'est important effectivement d'avoir une documentation d'époque par rapport aux recherches historiques qu'ils font. Là effectivement, il y a peut-être moins l'aspect.
Je mélange de tout. Un des trucs qui m'a le plus fascinée, c'est que j'étais sur un quai en Inde avec une copine, on attendait un train. Il y a un pèlerin qui est arrivé sur le quai, il était habillé juste, c'était un sarong noir, il était crasseux, tout pourri, pieds nus. Mais il avait sur le visage une barre blanche, un trait blanc, un point rouge et un liseré doré sur son front. Il était magnifique, superbe. Je l'ai trouvé mais majestueux et beau à en craquer. Et le maquillage de mes guerriers vient de cet homme-là. Donc je me sers de tout et ça peut être, tout d'un coup j'ai, là ça vient pas, mais c'est un rien me nourrit et un rien de question, j'ai une culture sur des sujets mais complètement stupides, est-ce qu'on peut faire des toilettes sèches dans un milieu désertique, j'ai de tout dans mon panel et je...
Quitte à ce que ça serve pour trois lignes dans l'histoire.
Tout à fait.
Je suis d'accord avec ça.
C'est toujours ça qui est aussi fascinant pour nos lecteurs, c'est que finalement, on n'imagine peut-être pas forcément le nombre d'heures que vous passez en amont à tout un tas de choses.
J'ai aucune peur de retravailler mes textes. Pour Laïlan, je l'avais entièrement écrit quand je l'ai donné à la maison d'édition, et on a pas mal retravaillé puisqu'il y avait des soucis de première écriture, etc. Alors que c'était totalement terminé, j'ai intégré quatre personnages à l'intérieur. Grâce au synopsis et tout, donc je sais que mes textes, j'hésite pas à revenir en arrière, j'hésite pas à retransformer une scène, ça ne me perturbe pas. L'hiver dernier, quand il n'y avait pas de neige, je suis allée au ski sans neige, nous avons eu le forfait ski à dépenser à la montagne, donc j'ai eu l'occasion de faire du parapente, on s'est élevé dans le silence, et j'étais là, waouh, comme on voit bien et tout, c'est comme si on était sur un dragon, je devrais quand même écrire une histoire avec des dragons quand même. Et tout d'un coup je me suis dit, mais j'ai des bestioles ailées dans mon histoire, mais je suis à Dompfouliour. Et à ce moment-là j'ai commencé à interroger le type, alors à quelle distance on est là, on est à quelle hauteur, etc. Et j'ai commencé à me renseigner sur toutes les possibilités, et j'ai inclus ça après.
D'accord. Vous avez quand même profité du vol.
J'adore.
Mais ça m'amuse de vous entendre parce que j'avais entendu une fois en interview l'éditrice française de Dan Brown, donc chez Lattès, raconter au moment où c'était la folie du Da Vinci Code, qu'elle avait un jour reçu un courrier, alors qu'évidemment il y avait toutes les polémiques autour du livre, et que le lecteur qui lui avait envoyé disait: écoutez, moi j'ai adoré le livre, il y a juste un truc qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de train au départ de la gare Saint-Lazare à l'heure où ils le prennent. Et bon, je ne sais pas si vous avez lu le Da Vinci Code, mais si c'est la seule chose qui vous dérange, il y a quand même peut-être un truc qui ne va pas très très bien, quoi.
C'est ça.
Mais voilà, je pense que vous êtes plus à même que moi, j'imagine, d'avoir rencontré des gens qui vous ont pointé des détails quasi insignifiants. Mais
j'ai un monsieur, moi, une fois, qui est arrivé en me disant: ça ne va pas du tout, Madame Calvert. Ah, non, il me dit: votre livre italien, très bien, rien à dire, sauf: madame, il n'y avait pas de mimosa là, à telle date, à tel endroit. Il a été introduit 3 ans plus tard. J'ai fait: bon, eh bien, vous avez aimé? Ah, pour le reste, oui.
Ça va.
Gagné.
Sur combien? 700-800 pages. C'est aussi des choses, justement, que vous intégrez les uns les autres, de se dire... voilà, si effectivement il n'y a pas une telle précision, à se faire un peu taper sur les doigts. Ou c'est juste parce que, par souci de perfectionnisme personnel?
Pour moi, c'est le perfectionnisme. J'ai toute la chronologie avec mes personnages pour voir s'ils vont se croiser, à quel moment, si j'ai bien respecté les distances en termes de temps pour se retrouver, etc. Et en parallèle, j'avais toute une chronologie où il doit pleuvoir 2 jours par semaine. Et j'avais mis donc tous mes jours, bien avant de faire la chronologie des personnages. Et il y avait des scènes que j'avais imaginées par beau temps, et tout d'un coup je me disais: ah ben non, il pleut. Bon bah oui, ça va. Et ça faisait vraiment comme si, ben voilà, aujourd'hui tout le monde pourrait plus attendre à ce qu'il fasse beau, et ben non, il pleut. Bon. Alors on écrit l'histoire autrement.
Samantha.
Il y a ça, et je crois qu'il y a en plus du perfectionnisme personnel, le plaisir, cette espèce de challenge qu'on se met à soi-même, de se dire: voilà, je vais faire des recherches sur des sujets qui sont passionnants. Pareil, j'ai étudié la physique quantique pendant des mois et des mois, alors que Dieu sait que je détestais ça à l'école, et je me suis retrouvée d'un coup fascinée par des sujets comme la génétique ou des choses comme ça que, voilà, que je n'avais pas eu la curiosité intellectuelle auparavant. Et là, c'était absolument, absolument passionnant. Et c'est cette idée aussi qu'on est là aussi pour se faire plaisir, pour apprendre des choses. Bien sûr qu'on va mettre... Peut-être qu'on n'en parlera même pas dans nos romans, de toutes ces recherches et de tous ces petits détails qu'on va aller chercher, mais c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui crée encore d'autres connexions et d'autres idées pour la suite.
Et puis ça pourra servir.
Oui, mais en plus, c'est même pas tant... l'utilité est une chose, mais c'est vraiment rien que le plaisir de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est déjà merveilleux.
Oui, bien sûr. Je fais ça depuis toujours. Moi. Je suis une autodidacte, donc j'ai toujours... grignoter un peu partout avec une jubilation terrible. Donc, je suis entièrement d'accord aussi avec ce qu'elle dit. C'est vrai que nous, on est. Enfin, moi, je suis bloquée par l'histoire. Il y a quand même des chroniques ou des choses qui permettent de dire: il faisait beau, il pleuvait à telle époque, il y avait des sécheresses, il y avait ceci ou cela. Donc, on est tenu d'intégrer ces données-là à un moment donné. C'est pour ça que je dis que le seul tricot que j'ai, moi, c'est l'histoire. Parce que, quand même, elle. Elle a conditionné certaines batailles. Quand il se met, il y a un déluge, on peut plus. Quand il y a, voilà, donc
le soleil de
ça, c'est important. Ouais. Donc forcément, ça joue un rôle très très important, même si on se lâche et on s'amuse.
Pierre, pareil. C'est quoi? C'est le perfectionnisme qui te pousse à ces recherches, ou c'est un souci vraiment d'exactitude?
Tu parles à un type qui écrit en petite capitale.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié.
Qui est devant qui c'est le perfectionniste.
Une couleur particulière d'écriture.
Oui, il y a la quête de l'excellent. Bah oui, évidemment. Les titres sont en rouge, c'est qu'ils vont voir. Il y a la quête de l'excellence qui est un motif égoïste de progression. Il y a le fait aussi, si on écrit un pastiche ou un roman historique, je pense que ça a vraiment de sens que si on respecte soit l'œuvre, soit la période, quoi. Sinon c'est pas la peine de... ça n'a pas de sens.
Oui, mais toi, tu le redis, c'est un hommage à Dumas, mais Dumas lui-même était quand même quelqu'un qui revisitait vraiment l'histoire à sa façon.
Oui, il n'a pas hésité. Oui. Ceci dit, il avait quand même souci, il a écrit des bouquins qui le voulaient académiques, des bouquins qui voulaient être des bouquins d'historien. bon, sa nature prenait vite le dessus de temps en temps, et puis il y avait aussi l'état de la science, la connaissance historique de l'époque qui comptait. Il n'empêche que je veux bien trahir l'histoire, mais je veux le savoir, je veux pas me tromper. Je veux bien savoir qu'en fait, non, à telle date, normalement, Richelieu n'est pas là. Moi, je le mets ailleurs, parce que j'en ai besoin pour mon bouquin. La priorité, c'est le bouquin. Donc, s'il faut que Richelieu soit ailleurs, il sera ailleurs. Bon, pas à Saigon ou à Rio de Janeiro, évidemment. Mais il doit être ailleurs en France, je le ferai très probablement. Et dans la mesure du possible, si c'est une trahison un peu importante, au moins à mes yeux, je vais trouver une bonne raison. Dans le troisième volume des Lames, dans le Dragon des Arcanes, à un moment, il y a une rafle. Beaucoup de comploteurs sont arrêtés le même jour, une grande opération de police organisée, et on arrête tout le monde en même temps. Historiquement, elle n'est pas arrivée à la date à laquelle elle arrive dans mon bouquin. Historiquement, elle arrive plus tôt, quelques mois plus tôt, un ou deux mois avant. Ça m'a un peu chagriné, mais bon, j'avais la nécessité de mon intrigue à moi. Et mon boulot, moi, c'est pas de raconter l'histoire, mais c'est de donner au lecteur le meilleur livre possible. Donc, c'est lui qui a la priorité. Mais je me suis servi de l'histoire d'une certaine manière. C'est-à-dire que je me suis souvenu avoir lu que Louis XIII avait organisé cette rafle sans en parler à Richelieu. Et que Richelieu était mis devant le fait accompli. Un beau matin, il apprend que tout le monde a été arrêté par Paris. Et donc moi je me dis, moi dans mon histoire, Richelieu il va l'apprendre, il l'aura appris, et il sera intervenu en urgence auprès de Louis XIII pour lui dire, sire, on devrait peut-être attendre deux mois, ça arrangerait tout le monde. Et Louis XIII, qui est un brave garçon, aurait dit oui. D'une certaine manière, moi ça me rassure. Ça me permet aussi de penser que si jamais un lecteur est assez connaisseur du siècle pour remarquer les six semaines de décalage, il voit aussi que je lui donne une raison et que je me défausse, donc ça se tient un coup. Et puis pour ceux qui se foutent complètement des six semaines de décalage et qui ont raison d'ailleurs, parce que c'est quand même pas fondamental comme problème, l'explication du fait que Louis XIII voulait le faire deux mois avant et puis finalement Richelieu, ça gêne pas la narration, c'est très bien, tout va bien.
Est-ce que l'usage de la fantaisie, de l'irruption de la fantaisie dans l'histoire, c'est aussi un moyen parfois de trouver des biais ?
C'est une pente qui m'est naturelle. J'aime bien la fantaisie, j'aime bien ce qui relève du merveilleux, de l'horreur, du fantastique. J'ai du mal à ne pas en mettre dans mes récits. Secondo, je trouve que lorsqu'on trouve le bon angle, en gros les bons éléments de fantaisie à mettre dans la bonne période, je pense que tous les mariages ne sont pas possibles. Je pense que mes fées, mes licornes, vont très bien dans le Paris du début du XXe siècle, Paris Haussmann, École de Nancy, Art Nouveau, etc. Tout ça, il y a une sorte de cohérence presque graphique, artistique, ça va bien. Les dragons, plus sombres, ils vont bien dans la France du XVIIe, qui est la fin, par définition, c'est la fin, le début de l'âge moderne, la fin du Moyen-Âge, le début de l'esprit scientifique, enfin, tout ça, c'est un monde d'entre-deux, je trouve que ça y va bien. Et du coup, je pense que lorsqu'on trouve les bonnes créatures, le bon décalage pour décrire la bonne période, les éléments qui relèvent du merveilleux servent un peu comme c'est la petite touche de sel ou la petite touche d'épices qui relève tous les parfums d'un plat. Et si on se débrouille bien, je pense que ça met en valeur l'univers.
Et que finalement, ça ne heurte pas le lecteur
Absolument pas. Je pense qu'il faut trouver les bonnes créatures, le bon univers, le bon point de décalage. Il importe aussi, petit truc, c'est que moi, je n'explique pas les dragons. Je dis, il y a les dragons. Oui. Je n'explique pas plus les dragons que j'explique Louis XIII ou Tarlène de Richelieu.
Mais c'est un postulat de départ.
Voilà, c'est un postulat. Ce qui fait que le lecteur, en gros, il est confronté au dragon, à la réalité du dragon, comme il est confronté à la réalité du Louvre ou du cardinal de Richelieu. Du coup, tout ça arrive sur un même plan et finalement, les uns ne génèrent pas plus de questions que les autres. La première scène du bouquin, Richelieu est chez lui, il écrit, il est dans sa bibliothèque et sur la table sur laquelle il écrit, là où normalement il aurait dû y avoir un chat, il y a un petit dragonnet qui roulait en boule et qui ronfle un peu. J'explique pas le dragonnet, j'ai juste qu'il est là, quoi, point barre. Et le lecteur l'admet, parce qu'il est bonne composition, et que tout ça lui plaît. Et du coup, en général, souvent, les lecteurs m'ont dit que la réaction elle avait été a posteriori, c'est-à-dire que j'avais vu que c'est un dragon. Et donc, le truc est admis, tout va bien. Moi, je les explique pas, parce que je trouve que plus on explique, plus on a l'air de s'excuser, en fait. excusez-moi d'avoir mis des dragons. Alors je vais bien vous les expliquer bien bien, comme ça vous comprendrez pourquoi ils sont là. Bah non, ils sont là, tu prends pas, mais c'est comme ça.
Mireille, même question, puisque vous aussi, il y a l'irruption du merveilleux, du fantastique dans ce roman historique. Est-ce que justement, voilà, il faut trouver le bon compromis?
Oui, mais alors dans la saga du Chant des Sorcières, il y avait une légende à la base, celle de Mélusine, et effectivement j'ai dérivé plus facilement sur la fantasy parce que ça se prêtait pour plein de raisons, donc alors il faudrait assez longtemps pour en parler. Là, dans le lit d'Aliénor, elle s'impose elle-même par le simple fait que Aliénor est à l'origine de la légende arthurienne. Donc c'est sous le règne d'Aliénor que l'épée Excalibur a été déterrée par Henri Plantagenet, on a des chroniqueurs qui l'attestent. Enfin, donc voilà, il y a tout ça qui fait, et c'est elle qui a commandé, suite à un livre qui avait été écrit sur l'histoire des rois de Bretagne, c'est elle qui a commandé en fait des écrits, des romans, hein, puisque le terme de roman a commencé à apparaître à ce moment-là, des romans qui racontent l'histoire arthurienne comme on racontait les chansons de geste. Donc en fait, ce qu'on connaît aujourd'hui de la légende arthurienne est né sous le règne d'Aliénor. Donc là, on est ce qui aujourd'hui est de la légende, ce qui devient de la fantaisie, à l'époque, c'était le quotidien de ces gens-là. Voilà, donc c'est pas difficile, je veux dire, de mettre du merveilleux à une époque où tout était merveilleux et tout était, on parlait de fées, on parlait de lutins, on parlait de tout, et c'était le quotidien. Il n'y en avait pas un seul qui imaginait qu'il n'y avait pas un lutin sous la table, quoi. Enfin, je caricature un peu, mais c'était un petit peu ça. Et pareil, bon, pour d'autres récits, d'autres livres que j'ai pu écrire, comme Le Bal des Loups, où j'ai une légende de femme loup, et où en fait j'ai découvert, en faisant mes recherches sur cette légende-là et sur ce personnage-là, que Paracelse avait rencontré cette femme, et que Paracelse avait écrit son premier traité de lycanthropie après l'avoir rencontrée. Donc voilà, donc à un moment donné, j'ai pas besoin, je veux dire, d'aller chercher, d'aller inventer du merveilleux, puisque chaque fois je tombe sur des histoires où déjà ça fait partie du quotidien de mes personnages et où c'est une évidence. Voilà. Alors après, j'en ai rajouté dans Le Chant des Sorcières pour d'autres raisons, parce que je lis beaucoup la fantaisie, parce que c'est je suis pas du tout une lectrice de romans historiques, c'est terrible à dire ça, mais je suis plus une lectrice de polar, de thriller.
On a eu Laurent Binet l'année dernière qui nous a dit la même chose.
Voilà, donc je suis pour ces raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, c'est que souvent les romans historiques, pardon, hein, ceux qui les écrivent, sont écrits par des historiens qui ne sont pas des raconteurs d'histoire et qui prennent prétexte de leur amour de l'histoire avec un grand H pour ils prennent prétexte d'une petite histoire pour raconter cet amour de la grande histoire. Et c'est souvent trop plein de trop de détails, trop de descriptions, et je lâche très vite, même si les synopsis parfois sont hyper intéressants. Je lis le quatrième de coup, je fais waouh, et je lis 20 pages et je fais oh.
C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que dans roman historique, le moins important c'est roman, c'est pas l'histoire.
C'est ça, voilà. Et donc en fait, je suis plus proche, moi, dans mon écriture et dans mon accroche, comme je dis, de thriller ou de polar, comme fait Pierre d'ailleurs, c'est un petit peu ça aussi. Donc c'est pour ça que le fantastique, il naît à cette époque-là, quoi. Donc on n'a rien inventé, simplement on a expliqué des choses. Et peut-être que dans 50, 60, 100, 150 ans, ceux qui écriront auront des explications à ce que nous n'expliquons pas aujourd'hui, et quand ils le recadreront dans notre contexte, ils diront que c'était du fantastique. Pour eux, c'est... Voilà.
Ça sera une belle conclusion, parce qu'on est en retard, en fait. On va vous remercier. Déjà, remercier les quatre auteurs présents d'avoir joué le jeu, de nous avoir un peu... entrouvert à la porte de leur bureau, et puis j'espère que vous en avez appris un peu plus sur eux, sur leur façon d'écrire, que ça vous a aussi donné envie de les retrouver et de lire leurs livres, et puis peut-être d'aller continuer la discussion sous la bulle du livre, où au moins vous serez à l'abri, parce que visiblement ça tombe encore assez fort.
Merci beaucoup à tous, au revoir.
Merci beaucoup. C'est vous qui êtes intéressant, moi.
Merci.
Excusez-moi, parce que je peux vous demander de juste pour ma sœur. Avec grand plaisir, à chaque moment, elle s'appelle Fidèle, elle est juste la papille.